entretien, partage avec des personnes ressources, des affaires, des organisations, toutes catégories de compétences sur Radio Neovi Africa.
Onile ejade wa eyan to tun si ye o
ende lori ye ni
asun para o si ye ni
pe koluwa o ba run la oro yi ba ka jo juro ka pe mere kolo ore ka jo da oso
bina banjo ni papa o n pe ku pelu ẹran ọ̀yá
ọdẹ adúrú
iná bá ń jó ní.
Voilà, et chers amis et chers auditeurs de Neovi Africa, et je suis Gabin Conrad depuis Houston, Texas, et dans cette édition Triangle où nous recevons des personnalités, des responsables d'associations, des hommes politiques, des acteurs politiques, économiques et autres sur des sujets portant sur le développement, des analyses conduisant et à des pistes de bon développement, des mécanismes de développement de notre Afrique, de notre continent africain. Aujourd'hui, nous allons à Iowa pour et nous entretenons avec notre frère, Monsieur Salou, qui va se présenter tout à l'heure. Il est béninois, résident dans l'État d'Iowa, aux États-Unis. Et notre entretien portera sur la situation sociopolitique au Bénin. Et là, nous aurons donc à faire le tour d'horizon de ce cadre politique actuel au Bénin et le bilan de 3 ans du président Patrice Talon et les espoirs pour les populations et la position de la diaspora par rapport à certains enjeux. Voilà, donc c'est des slides sur les questions. Donc merci d'être venu. Nous allons revenir juste après et cette pause et que je vous offre. On retourne au Bénin.
Gbogbo ọlọ́pọ̀ ní ojò mọ́ràn ló ń láti mọ̀ ni mo wí. Ṣé kí n mọ̀ wí àbí kó gbẹ̀nu mi? Ọ̀rọ̀ gbénú ojú ra bí ti ọ̀gẹ̀dẹ̀. Onílé ẹ jáde wá, èèyàn tó sùn sí ẹrù.
Ẹ̀ǹdẹ̀ lórí ẹni.
Alors, notre invité va se présenter, M. Saliou, et merci d'être venu dans cette émission.
Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur Conrad, pour l'opportunité que vous m'aviez donnée de m'exprimer. Et pour la première fois dans cette émission, sincèrement, je vous remercie pour ça. Moi, c'est Saliou Aboudou. Je suis le vice-président des Béninois d'Iowa. Je suis comptable ici dans l'un de nos grands hôpitaux ici à Iowa, là où je travaille. J'ai servi aussi dans l'armée américaine pendant 6 ans, mais je ne suis plus dedans. Donc voilà un peu de façon ramassée en ce qui me concerne.
Voilà, merci M. Saliou qui a accepté notre vice-président de l'association des Béninois et à Iowa qui a accepté d'être avec nous pour ce petit entretien. Alors, la toute première question est située nous à Iowa, dans les États-Unis, c'est vers quel état? Quel état c'est à quel niveau de New York, par exemple?
Bon, nous sommes un peu dans le Midwest, si je peux parler ainsi, non loin de Chicago. Nous partageons le même border avec Chicago et Nebraska, Omaha. Donc voilà, nous sommes ici. Et voilà.
Très bien. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui est à Chicago peut facilement se situer, c'est donc au nord de Illinois, je crois bien.
Yes. Oui.
Au nord-ouest de l'Illinois.
Oui.
Au nord-ouest. Voilà. Donc, voilà, et chers auditeurs, nous avons avec nous notre frère et ami, Saliou, qui va aborder un sujet très sensible, donc je ne sais pas si c'est le mot, et brûlant, je veux dire plutôt, et la situation sociopolitique au Bénin actuellement. Il y a plusieurs commentaires actuellement qui, sur le forum, on parle du Bénin. Et c'est comme le Bénin représente un des points de la politique africaine aujourd'hui, compte tenu de certaines avancées, alors et aussi certaines réformes. Et les gens en parlent, la diaspora béninoise avec plusieurs commentaires que nous lisons. Certains sont toujours optimistes, certains sont partants avec les réformes. Il y a d'autres, il y a plusieurs qui se demandent. Les populations sur le terrain, les journaux en parlent et c'est comme si le ciel est en train de tomber sur la vie des populations béninoises. Quel est votre constat par rapport à ces réactions divergentes des populations?
Vous savez, monsieur le journaliste, le Bénin, c'est un pays très cher pour moi et je pense que c'est un pays aussi très cher pour les Béninois. Et autant que nous sommes ici en tant que Béninois résidant à l'extérieur, le développement de ce pays nous compte beaucoup. Nous pensons beaucoup à comment construire ce beau pays parce que c'est, si je peux parler ainsi, c'est une grâce d'être Béninois. On a eu des histoires. Nous avons à côté le Togo. Il y en a connu beaucoup de crises. Et nous avons le Niger qui est à côté aussi de l'autre côté. Nous avons le Nigeria aussi. Mais le Bénin est un pays beaucoup plus béni, si je peux parler de la sorte. Et nous sommes beaucoup fiers d'être béninois et de le représenter partout où nous sommes dans le globe. Donc, la situation actuelle au Bénin, je pense qu'il est arrivé à un moment où il a fallu que je me mette assis et penser à la situation économique et sociale de notre cher beau pays. Je suis arrivé à un moment où je me suis dit, mais parce que vous savez, quand on est dans la diaspora, tout ce qu'on fait, c'est de suivre des informations, soit par les réseaux sociaux, on regarde le journal, ainsi de suite, et on voit à peu près un peu ce qui se passe. Mais nous avons eu la chance, si je peux parler ainsi, de sortir du pays. Et nous avons vécu d'autres expériences plus sérieuses. Et se basant sur ces expériences, nous pouvons réfléchir autrement. Parce que ce que nous pouvons voir, les autres qui sont là-bas peuvent ne pas le voir. Vous savez, je ne suis pas de mouvancier ou de l'autre côté, comme on appelle l'autre, excusez-moi beaucoup, le français parle de moi, opposant. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de dire que les mouvanciers ont fait ceci ou bien les opposants ont fait ceci. Mais il faut qu'on s'assoie en tant que Béninois. Il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on se consulte pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Et il faut avoir aussi le courage d'avouer certaines choses qui ont réussi.
Voilà.
Vous comprenez un peu? Donc, tout n'est pas de critiquer ou bien de dire que l'autre a mal fait ou bien ceci a mal fait ceci, mais à un moment donné aussi, il faut avoir le courage d'avouer la réalité, la vérité. Vous comprenez un peu? Donc, je vais m'arrêter d'abord sur ce point.
D'accord, on revient et nous allons écouter Fatoumata Diawara du Mali. On revient tout de suite.
Min fo wolo na bere uye e fanga ben ka gegele Kelele sinyi ma fila farala Kelele bale ma fila farala Kelele sinyi ma fila farala Kelele bale ma fila farala
Voilà, cher auditeur, nous sommes avec Monsieur Saliou qui
oui.
Nous parle de qui nous parle du Bénin dans ce que le Bénin connaît comme bénédiction, comme chance dans la sous-région. Et c'est c'est l'introduction du thème que nous allons aborder. Nous abordons d'abord et d'ailleurs. Et la situation sociopolitique et économique du Bénin. Comme il l'a dit, le Bénin a des chances, il est entouré par plusieurs autres pays qui ont déjà connu des bouleversements sociopolitiques. Mais le Bénin reste toujours stable. Donc, pour lui, il faut un certain optimisme. Et là, je vais tout de suite vous dire, et nous lisons dans la diaspora, nous lisons cette réalité qui se déroule au pays. Nous avons des parents, je suis béninois comme vous, et alors, comme tu l'as dit, fier d'être béninois, et je suis Dalada, mon grand-père est Dalada, et mon père est né à Agoué, je suis né à Agoué, et je peux tout de suite, à travers cet entretien, demander aux autorités de penser un peu à notre Agoué, notre village natal, qui est en train d'être avalé par la mer et l'érosion côtière qui va avec une allure vertigineuse, voilà, en parenthèse. Voilà donc, et le Bénin actuellement est en train de traverser une crise sociopolitique, ça c'est clair. Que l'on soit de la mouvance, que l'on soit centriste, que l'on soit de l'opposition, tout le monde est d'accord qu'il y a des malentendus dans l'air. Et quelque part, certains nous disent que les Béninois sont affamés. Et qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre à travers cette réaction? Les Béninois sont aujourd'hui affamés. Qu'est-ce que vous comprenez à travers ces réactions?
Vous savez, et avant de répondre à cette réaction, je vais d'abord parler un peu du président actuel, M. Patrice Talon, son excellence. Vous savez, M. Patrice Talon, c'est le président de la République du Bénin. Et le président de la République du Bénin, M. Athanase, n'est pas venu au pouvoir par bizarrement ou bien par coup d'État ou quoi que ce soit. Il est venu au pouvoir démocratiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Béninois ont choisi, ils ont opté, ils ont milité, ils ont voté, ils se sont même battus pour que le président Talon soit là. Mais pourquoi ceci? Parce qu'ils ont une confiance absolue. Ils ont la confiance et ils savent que voilà le monsieur et voilà sur qui nous pouvons compter et pour les 5 années à venir. Voilà celui qui peut faire le changement, voilà celui qui peut apporter ceci, parce que quoi? Nous avons un peu le background du président. On sait que le président est un entrepreneur, on sait que le président a réussi dans son entrepreneuriat, et il est ce qu'il est. Et à un moment donné, les Benoît ne sont pas quand même tous des illettrés. Donc, ils se sont mis ensemble et ils ont compris que c'est le monsieur qu'il faut pour le pays. Le monsieur qu'il faut pour le pays. Et moi, en ce qui me concerne, je fais confiance à cet élu du peuple parce que vous savez, et un roi, ce n'est pas l'homme qui désigne un roi, mais c'est Dieu qui choisit un roi pour son peuple parce que Dieu nous aime beaucoup. Et je pense que c'est Dieu qui a choisi le président de la République pour le peuple du Bénin. Vous comprenez un peu? Mais quand le président est venu au pouvoir, vous voyez, le Béninois ne veut pas lui donner de temps. Le Béninois veut en même temps que la nourriture soit préparée, soit cuite en même temps et qu'elle soit mangeable. Vous comprenez un peu? Et je pense que si je peux comprendre, parce qu'il est arrivé à un moment où je devais me mettre aussi à l'écart et réfléchir un peu à la situation actuelle et voir pourquoi ça ne marche pas, pourquoi tant de souffrance, pourquoi tant de haine, pourquoi tant de cris. Vous comprenez un peu? Donc, je suis arrivé à comprendre que, point A, nous, en tant que Béninois africains, nous pensons toujours à la courte durée. Nous ne pensons pas au développement à long terme. Vous comprenez un peu? Parce que pour qu'un pays réussisse, pour qu'un continent réussisse, on doit faire des plans sur 50 ans. Il y a d'autres qui font des plans sur 100 ans. Vous comprenez un peu? Et un plan sur 50 ans, sur 100 ans n'est pas un plan qui va se réaliser aujourd'hui.
Voilà.
Vous voyez un peu? Mais
Bon, merci.
il faut vraiment. Oui?
C'est ça. Je ne voudrais pas vous couper, mais je peux tout de suite vous poser une petite question pour ça. Disons même que nous sommes devant cette population des petites contrées, des petites contrées, des villages et autres, qui ne comprennent rien de ce que tu nous expliques à travers ces commentaires, mais tu peux donner une certaine explication pour les amener à comprendre ce qui se passe chez eux. Pourquoi un tel changement? Et pourquoi il y a une telle rigueur? Et pourquoi certains commerces devraient fermer? Pourquoi le déguerpissement, par exemple? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Bon, lorsqu'on va aux élections en Afrique en général, dans la plupart du temps, c'est des autochtones, c'est les populations. Des illettrés, des analphabètes, des gens qui ne connaissent rien de ces réalités, qui vont et qui élisent, qui vont et qui après jubilent avec ceux qui sont gagnants et après c'est eux qui, c'est ces derniers qui subissent tout le coup. Et lorsque nous promenons nos caméras dans certains villages, dans certains milieux en Afrique, je ne veux pas citer simplement le Bénin, et partout, on a comme l'impression que le développement n'a jamais été possible en Afrique depuis l'indépendance. Les choses sont toujours restées telles et on pensait que c'est les Blancs qui s'appropriaient les ressources du pays, du continent, mais quand ils sont partis, et l'indépendance et autres, les choses sont toujours là. Maintenant, aujourd'hui, nous savons créer démocratie. Nous sommes très contents d'avoir un pays où démocratie alternance au pouvoir tout à l'heure. Maintenant, et les choses n'ont jamais été ainsi. Maintenant, il faut implémenter une nouvelle réforme. Est-ce que les populations ont été bien informées? Est-ce qu'il y a eu assez d'explications au niveau de pour travailler un peu la mentalité, pour conduire le peuple un peu à regarder, à comprendre, à discerner de quoi les questions. Parce que lorsque, quelles que soient les mythes, quelles que soient les explications intellectuelles, je veux dire, simplement, et techniques et autres, que nous pouvons apporter en tant que membres de la diaspora, ceux qui sont à l'intérieur, c'est eux qui subissent le coup, je ne sais pas quel coup de toutes les façons, mais chaque jour, nous lisons sur les réseaux sociaux, il y a ceci, il y a la faim, ma boutique a été fermée, pour des raisons que je ne comprends pas, j'ai été renvoyé, tout ça. Est-ce que, bon, Qu'est-ce que vous allez dire à cette population, hein, frère Salim?
Oh, merci beaucoup pour cette question. C'est un peu intéressant. Vous savez, le développement, on ne peut pas développer un pays dans la saleté. Nous devons nettoyer le pays. Et sur ce point, au commencement, au départ, si je pouvais parler ainsi, j'avais applaudi cette initiative du gouvernement pour en ce qui concerne d'abord le dégapissement. Et j'ai même fait des vidéos sur ça, sur YouTube. Vous comprenez un peu. Donc, j'avais applaudi cette initiative. Mais le problème était quoi? Qu'est-ce que le gouvernement a prévu après le dégapissement? C'était ça le problème. Parce que quoi? J'étais né au Bénin, j'ai grandi au Bénin, j'ai fait mes études primaires et secondaires à Kilibo, dans un village au nord du Bénin. Et je sais ce que ça veut dire. Parce que ma maman, en son temps, était une femme businesswoman, si on pouvait parler ainsi, avec son petit business, et c'est avec ça qu'on arrivait à payer les scolarités. Mais imaginez qu'un jour à l'autre, qu'on vienne et qu'on casse la chose. Et elle devient quoi? Vous comprenez un peu. Mais est-ce que le gouvernement, après avoir cassé, ou bien avant de casser cette chose, a déjà prévu quelque chose comme indemnité pour ces personnes, ou bien a déjà pensé quelque chose pour ces femmes? Et c'est ça la cause actuelle de la galère, si je pouvais parler ainsi, qui sévit le pays. Vous comprenez un peu? Donc je pense que le gouvernement, dans ses plans d'action, prend bien des décisions, mais quand il prend ses décisions, il ne prévoit pas des remèdes à ces choses-là. Vous comprenez un peu? Et c'est ça qui fait la cause de la souffrance actuelle au Bénin. Et sur ce point, le gouvernement doit un peu mettre la balle à terre et penser à ça. Quand je prends l'exemple des médicaments venant du Nigeria et ces médicaments qui tuent nos parents, c'est une réalité absolue, vous comprenez un peu. Mais ces mêmes médicaments passaient par la douane béninoise. Vous comprenez un peu? Ça passait par la douane béninoise. Et c'est la douane béninoise qui permet que ces médicaments rentrent dans le pays. Mais on ne peut pas permettre à ces médicaments de rentrer une fois rentrés dans le pays et maintenant on vient, on casse tout, on ramasse tout, on brûle. Maintenant on met les businesswomen, les businessmen, la population dans quel état? Ces gens-là ont dépensé des millions pour pouvoir payer ces choses-là. Donc c'est là, je dis, le gouvernement doit un peu changer sa stratégie de réforme, si on pouvait parler.
Voilà, on revient. Donc, dans un instant, revenons. On fait une pause, on revient. Voilà, et le Bénin, la situation socio-politique, économique du Bénin actuellement, avec les nouvelles réformes, avec la rupture, et ce que les populations expliquent, et ce que veut signifier, ce qu'on comprend par ces réactions, de part et d'autre sur les réseaux sociaux. Et M. Saliou vient de brosser une bonne partie de ces réalités. Et on comprend aujourd'hui qu'il y a certains efforts, des stratégies à adopter pour mieux intégrer ces réformes au niveau de des habitudes au pays. Voilà. Donc, et vous trouvez là que le gouvernement pourrait réduit un peu l'ardeur de ces réformes, ou bien au niveau des réformes.
Oui, je pense que le gouvernement pouvait réduire la date de ces réformes. Et qu'est-ce que moi je voudrais dire par là? C'est-à-dire, en prenant ces réformes, le gouvernement devait prévoir quelque chose. C'est-à-dire, parce qu'en voulant casser une maison, il faut penser à c'est les personnes qui dormaient dans cette maison. Donc, quand tu casses la maison, les personnes là qui dormaient, qui vivaient là, vont vivre où?
Voilà.
Ils ne vont pas quand même vivre dans les rues.
C'est
Vous
ça.
comprenez un peu? Donc, on doit
Voilà.
penser à plan B. Si on casse ce plan A, quel est le plan B? Si le plan B ne marche pas, quel serait le plan C? Et là, le gouvernement serait peut-être félicité. Et peut-être, là, ça allait diminuer les cris, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau social, dont nous entendons parler aujourd'hui.
C'est ça. Et lorsque les crises sont deviennent de plus en plus de plus en plus fort au pays, hein, ces crises deviennent de plus en plus profondes, j'allais dire, est-ce que ça n'a pas de répercussions sur la vie des bénévoles de la diaspora, de la diaspora, je veux dire. Est-ce que lorsque ces crises deviennent de plus en plus élevées, hein, et chaque jour, des commerces qui sont fermés, des gens qui sont dégagés et autres, est-ce que vous ne trouvez pas que la diaspora ressent cette douleur?
Vous savez, et la diaspora est un des partis les plus importants dans le développement de notre continent. Parce que quoi? Par an, la diaspora envoie des millions et des milliards en Afrique. Vous comprenez un peu? Maintenant, par exemple, aujourd'hui, ce matin, j'ai parlé avec un compatriote béninois qui a l'habitude de faire un conteneur d'Omaha pour Cotonou. Mais il se plaignait ardemment, il disait que ça ne va pas, les choses ont doublé, tu dois payer ici, après tu dois payer là-bas, après tu dois, que c'est de la merde. Mais, et que finalement, lui dit, quand il fait le business, c'est pour un profit, non seulement c'est pour ton propre profit, c'est pour aider les gens du Bénin. Parce que dans le conteneur, il me disait même qu'il y a 50% de choses qui étaient des dons pour des hôpitaux. Vous comprenez un peu? Maintenant, si je dois dédouaner ce conteneur et perdre, en ce moment-là, je suppose que, parce que toujours sur la même rupture, un de mes frères à Cotonou m'appelle pour dire que j'ai une situation, envoie-moi 100 dollars. Voilà, moi, j'ai une situation ici, je suis en train de courir derrière 1 million, 5 ou bien 2 millions. Est-ce que je pourrais répondre à ce que le frère est en train de me dire? Vous comprenez un peu? Donc, d'une manière ou d'une autre, ça joue beaucoup sur la diaspora. Et quand ça continue comme ça, je suis obligé d'arrêter. Donc, je ne ferai plus de business. Et quand je ne fais plus de business, qui va amener les choses à Cotonou pour dédouaner, pour que l'argent rentre dans la caisse de l'État? Donc, je paie, oui, mais l'État paie deux fois plus que moi. Et en plus, la famille, la population aussi paie. Vous voyez un peu? Donc, ça joue un rôle capital au niveau de la diaspora. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous devons sincèrement en parler et nous devons laisser de l'autre côté nos pensées égoïstes ou bien écouter que l'autre a dit ceci. Nous devons nous mettre dans notre bain et bien analyser les choses et voir exactement ce qui ne va pas et quelles sont les solutions à apporter. Mais une chose n'est pas de critiquer toujours, de dire que ça ne va pas ou bien l'autre a fait ceci mal ou bien l'autre a fait cela mal.
Il faut d'abord chercher à savoir et à connaître, à comprendre d'abord les problèmes et trouver les solutions appropriées.
Oui, exactement. Parce que vous savez, un président, être un chef d'une société, ce n'est pas facile à gérer.
Voilà, il travaille
D'abord,
avec
à
l'équipe.
commencer même dans la famille, être un chef de famille ou bien un mari dans la chambre, ce n'est pas facile à gérer. Maintenant, on va parler de chef de famille, chef d'une société, chef d'une entreprise et maintenant un président de la République. Vous pouvez
Voilà.
comprendre la pression qui se passe là.
Voilà. Donc, à ce niveau-là, je crois que nous avons. Et le problème est assez sérieux, très sérieux. Et lorsque nous ressentons à notre niveau, au niveau de la diaspora, cette douleur, cette crise économique et autres, et que le Bénin, l'Afrique, de toutes les façons, ce pays dépend largement des efforts de la diaspora. Et maintenant, et lorsque ça ne va pas, qu'est-ce que cette diaspora devrait faire pour améliorer, pour approcher les autorités en vue de trouver des stratégies de sortie de crise? Parce que parfois, lorsqu'on met sur les aires de jeu, hein, et on joue un numéro 9, le numéro 9 fait rater à tout moment ses buts et autres, mais ceux-là qui sont derrière voient mieux certains couloirs qu'il fallait exploiter pour cela. Donc, trouvez-vous pas que la diaspora pouvait, si elle est vraiment organisée, si elle existe d'abord, il faudrait que l'enfant n'existe que lorsqu'on est, on vit dans une certaine homogénéité. Et lorsqu'on a une ligne d'action, une vision, lorsqu'on on vit dans un projet où il y a la diversité, hein, dans la convergence, mais si cette composante réellement est organisée, est-ce que la diaspora ne pourrait pas trouver, apporter des apports de solutions et sortir ce plan pour essayer d'aider localement ce qui ne va pas? Et parce que ce qu'on est en train de constater, c'est que tout le monde se limite à des accusations, à des dénonciations, et à des audios, hein, créables et autres. Mais juste là, il n'y a pas encore une démarche claire, hein, physiquement organisée, et pour sortir une feuille de route et pour dire voilà, c'est ce que nous trouvons, c'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous pensons qu'il faut. Bon, et parce que ça nous concerne. Si le Bénin tombe dans une crise, dans une grande crise, ça va, malgré que nous sommes à l'extérieur, nous allons tous subir, partager ces douleurs. Maintenant, lorsque nous avons un problème, il faudrait que tout le monde soit capable de réfléchir sur ce problème et d'apporter ce point de vue. Lorsque là, M. Saliou, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose que la diaspora pourrait faire et pour aider à une sortie facile et rapide au niveau de cette crise?
Oui, vous savez, comme je l'avais dit au départ, la diaspora fait partie de l'une des moteurs du développement de notre cher continent. Et petit un, je pense que pour pouvoir réussir, nous devons, en tant que membres de la diaspora, nous devons d'abord éviter l'influence de la mouvance présidentielle. Vous comprenez un peu? Parce que quand il y a l'influence de la mouvance présidentielle dans le groupe, ça veut dire qu'il y a certaines vérités que nous ne pouvons pas dire.
Voilà. Il faut une neutralité alors.
Donc il faut être vraiment libéral.
Voilà.
Maintenant, quand nous sommes libérales, là, la diaspora maintenant peut penser à une assemblée générale. Que ce soit les gens des États-Unis, que ce soit les gens de l'Europe, que ce soit les gens de l'Asie, parce que les Béninois sont partout dans le monde. Et je pense que nous vivons dans un pays ici qu'on appelle États-Unis d'Amérique. C'est les États. Ça veut dire quoi? La main dans la main, même s'ils sont libérales. Chaque État est libéral, mais c'est les États, quand ça arrive au niveau du fédéral. Et le Nigeria, tout près, est développé, même s'il y a encore les désordres dans le pays, mais c'est un État fédéral aussi. Vous comprenez un peu. Même si le Bénin ne peut pas encore arriver parce qu'on n'est pas grand, mais il faut qu'on commence par penser la main dans la main. Et il faut qu'on se mette ensemble, la diaspora, qu'on fasse une AG, et à travers cette AG, qu'on détermine quels sont les atouts, qu'est-ce que nous devons faire pour que le message parvienne au gouvernement actuel. Parce qu'aujourd'hui, si je comprends bien, on ne peut pas rester là et tout le monde bavarde dans le désordre. Et vous pensez que le président va écouter? Non! À plus forte raison, quand on vient, c'est pour l'insulter, pour l'accuser, mais il va dire, laissez-les, ils s'en foutent et ils continuent sur son chemin. Et ceux qui sont autour de lui n'ont pas le courage de lui dire certaines choses. Vous voyez? Donc, je pense que la diaspora devait commencer déjà par avoir cette idée de AG. Et à travers cette AG, il faut qu'on soit libéral, il faut qu'on soit indépendant. Et à travers ça, on pourra mettre ensemble une stratégie, un apport de solution à notre cher continent, à notre cher pays, le Bénin. Et à partir de ce moment-là, on devait chercher à se représenter. Et je suis sûr que le président va rencontrer cette personne que nous allons désigner pour aller le rencontrer, pour lui faire part de notre rapport, pour lui faire part de notre proposition, pour lui faire part de nos idées. Parce que nous l'aimons et c'est nous qui l'avons choisi.
Voilà. On revient après cette musique de Fatima Kouchikoko du Bénin.
Bonu chilevu sokbate sokla Sie mwe oche nye na ye Iye no nebo no mwalika Anyo no jimbande Jimbande Nono jimbande Mwe do suswa uwe nye kaja Jimbande
Voilà, et merci à Faki Kouchikoko du Bénin qui nous chante Nyonotjebande. Donc c'est le bonheur que nous cherchons, c'est pourquoi nous sommes dans la diaspora, nous sommes à l'extérieur, et pas simplement pour la pagaille, mais pas simplement parce qu'on veut rester à l'extérieur, mais c'est pour le développement de nos familles et de notre pays. Et nous devons donc être utiles à notre pays. Et M. Salih vient de dire, et il faudrait qu'il y ait une démarche stratégique et pour exprimer, apporter les apports de solutions, conduire une délégation, c'est ce qu'on avait dit déjà une fois ici. Et donc, je crois que ce serait une bonne stratégie, je pense. Et nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien, puisque nous devons fermer l'entretien pour cette demi-heure-là. Et nous allons demander à notre frère, notre invité, et de conclure, de donner son mot de fin et par rapport à cette situation et les espoirs que nous pouvons présenter à la population.
Mon mot de fin serait de dire aux compatriotes béninois que nous devions, arrêter sa foi de critiquer ou bien de maudire notre élu, notre chef, mais tantôt de prier pour lui. Parce que rien ne sort dans la haine. Rien ne sort de bon dans la haine. Vous comprenez un peu? Donc, même si ça ne va pas, même si on a mal, ça peut être un problème spirituel, personne n'en sait. Je n'en sais pas. Mais au lieu de le maudire, il faut prier pour le président, il faut prier pour le Bénin. Et il faut encourager aussi, il faut avoir le courage de l'avouer. Il faut encourager aussi les œuvres que la mouvance présidentielle a réussi. Et je l'avais dit dans l'un de nos groupes, où je disais que personne n'en parle de sécurité, de la sécurité au Bénin. Mais le président a réussi sur ce point-là. Il est en train de réussir, il est en train de réformer. Mais personne n'en parle. Mais parce qu'on a peur, il faut qu'on crie tout le temps. Donc il faut reconnaître ces choses-là, et en plus, dis-lui ce qui ne va pas, et priez pour lui à la fin, et je pense que en faisant ça, en faisant tout chose dans la convivialité, dans l'amour, dans la paix, dans la justice, Dieu va toucher son cœur, il va écouter sa population, il se rapproche à sa population, et à partir de ce moment ensemble, nous allons nous asseoir, et nous allons réussir à faire l'élan en ce qui concerne le développement de notre chef au pays, le Bénin. Et comme le disait l'un des anciens présidents, si vous voulez changer le Bénin, changez-vous-même, c'est une réalité. Mais lui disait que vous ne changerez pas. Donc, je prends mes dispositions. Oui, c'est une très bonne réalité, c'est une très bonne décision. Il prend cette disposition, c'est ça la réalité même. Mais dans cette décision, maintenant, il faut qu'il écoute et il faut que le peuple, même quand on a faim, il faut qu'on essaye aussi de prier pour le président et de prier le Très-Haut pour que la situation économique et sociale, et pour que Dieu touche ses leaders, le cœur de ses leaders, pour que la situation économique de notre pays change et pour qu'on puisse toujours avoir la paix, la joie dans ce beau pays, le Bénin.
Voilà, merci M. Saliou, vice-président de l'association des Béninois de d'Iowa, ici aux États-Unis. Nous avons reçu pour vous et sur le sujet situation socio-politique et économique du Bénin, juste quelques petites explications et ben, ce que nous constatons sur par rapport à ce que nous constatons sur les réseaux sociaux, il est toujours optimiste. Alors nous partageons cet optimisme avec notre frère et tout en espérant que les choses agissent pour le mieux pour ce pays et pour notre pays, le Bénin. Et chers auditeurs, merci. Je suis Gabin Conrad pour la radio Bénin Vie Africa. Merci de nous recevoir et à très bientôt.
Borofadika, Otepe Make, Katolike, Lembe Babele Kepo, Amena Kame, Filani Yoko, Sheri Moso Sakila, Jome Deme.
Entretien, partage avec des personnes ressources des affaires, des organisations, de toutes catégories de compétences sur Radio Néovi Africa.
Kamim bo wolo na bere wiye e panga ben kagegele
Merci, chers auditeurs, de répondre nombreux dans cette